en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Comment la société est-elle influencée par la politique, les médias et l'économie de marché, et quelle est la morale qui prévaut ? Monique Cantos-Perber, philosophe, directrice de l'École normale supérieure, ainsi que Philippe Loveau, professeur de droit public, évoquent respectivement la notion d'intérêt général et de bien commun, ainsi que l'influence des institutions, tout cela au cours du colloque « Regard sur l'homme contemporain » qui se déroulait en mai 2011 à l'Institut de France et dont Canal Academy est partenaire de l'événement. Laissons sans plus tarder la place à Monique Cantos-Perber sur la notion d'intérêt général et de bien commun.
J'essaierai simplement de définir les notions d'intérêt général et de bien commun, mais inévitablement nous retrouverons des questions morales essentielles et en particulier celles qui lient la morale à la politique. Intérêt général et bien commun, avouons-le, deux expressions qui n'ont au premier abord rien de bien enthousiasmant. Elles dégagent un parfum légèrement suranné, un sentiment d'obligation abstraite qui manque d'allant. Et elles vont à contre-courant d'une idée communément répandue à notre époque, qui semble consacrer le triomphe de l'individualisme, d'un individualisme qu'il est toujours bien vu de critiquer en public, mais dont chacun s'accommode fort bien en privé, et qui semble rendre naïf et irréaliste tout appel à une action qui serait inspirée par d'autres motifs que l'intérêt individuel. Donc intérêt général, bien commun, expression anachronique, en fait, rien n'est moins sûr. Ces deux notions n'ont rien d'obsolète et bien des traits de notre monde contemporain, dès qu'on veut bien se pencher sur ces contradictions, ces insuffisances et ces imperfections, en dépit de l'autosatisfaction proclamée partout, bien des traits de notre monde contemporain démontrent la véritable urgence qu'il y a à penser de nouveau ces notions, à essayer peut-être pas de construire les mécanismes politiques qui permettrait de les sauvegarder, mais au moins de susciter une lucidité collective sur le fait qu'il est impossible de réfléchir à notre société ou à notre politique ou à notre époque ou à notre communauté politique sans se référer à tout instant à ces notions d'intérêt général et de bien commun. Plusieurs signes en montrent la nécessité. D'abord l'anomie qui s'est emparée de nos sociétés, la faiblesse accrue des institutions, le sentiment de décomposition qui est inévitable lorsqu'on considère l'évolution de certaines réalités politiques. Et puis, étrangement, un élément de lucidité et de conscience qui dépasse nos frontières, mais qui est peut-être le détour nécessaire aujourd'hui qui permettra de ramener les notions d'intérêt général et de bien commun au centre de la réflexion politique. La conscience aiguë qu'ont nos contemporains des maux mondiaux, des difficultés mondiales qui dépassent nos frontières et qui exigent de manière évidente et sans hésitation, une prise de conscience et éventuellement des actions communes. Il est étrange de voir ces notions de général et de commun qui semblent obsolètes à l'intérieur de nos communautés politiques prendre au contraire une évidence naturelle lorsque on regarde les affaires du monde où il semble aujourd'hui accepté par tous qu'il n'y a plus d'affaires qui ne soient mondiales. Étrange retour de ces notions, il y a peut-être là une chance, même si dans cette prise de conscience beaucoup de superficialité subsiste, il y a peut-être là une chance de ramener ces notions de commun et de général au centre de la réflexion politique. Partons pour commencer de ces expressions et tâchons d'en donner une définition provisoire. D'abord, qu'est-ce que l'intérêt général ? Voilà une notion bien familière, on connaît quoique mystérieuse, on connaît bien l'intérêt privé, c'est celui qui anime les actions du sujet en fonction de ses désirs, de sa volonté de maximiser son bien, en fonction de ses états mentaux, bref, toute cette construction extrêmement sophistiquée et élaborée dont la philosophie et la psychologie morale contemporaine se sont faites expertes. En revanche, lorsqu'on essaie de définir l'intérêt général, l'intérêt du collectif, l'intérêt d'une communauté, les choses sont beaucoup plus difficiles. D'un homme ordinaire, on s'attend qu'il agisse conformément à son intérêt privé. D'ailleurs, dans la philosophie morale contemporaine, en particulier la philosophie anglo-américaine, la définition de la rationalité est clairement liée à la capacité qu'a un individu de maximiser son intérêt. Lorsque vous lisez, vous ouvrez la théorie de la justice de John Rawls, qui est tout à fait, qui se situe clairement dans cette tradition, il n'est donné pas d'autre définition de la rationalité que la capacité pour un individu de maximiser son intérêt sous certaines conditions particulières et tout spécialement des informations réduites, donc restriction d'information, d'où cette construction sophistiquée et habile du voile d'ignorance qu'on trouve au début de la démarche rawlsienne. Donc d'un homme ordinaire, on s'attend à ce qu'il agisse conformément à son intérêt privé, c'est la base de toutes les théories du choix rationnel qui structurent la réflexion sur la rationalité contemporaine. Je ne me prononce pas sur le bien fondé ou non ou le caractère illusoire de cette restriction, mais je souligne simplement ce fait. D'une certaine façon, le grand succès des philosophies libérales qui ont marqué le début de l'âge moderne est d'avoir montré comment l'ordre commun est le résultat des incitations ou des motivations privées. C'est le fondement de notre économie marchande, comme cela vient d'être rappelé. Chacun a en tête probablement ces lignes fameuses d'Adam Smith, venues de des recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, qui décrivent le fonctionnement ordinaire de nos sociétés, réglé par l'échange marchand, et où l'ordre et la régularité du lien social se laissent déduire du jeu des intérêts privés. Ce texte est si beau que je ne résiste pas au plaisir de le citer. « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Et ce n'est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c'est toujours de leur avantage. Nul besoin de recourir, semble-t-il, à une notion comme l'intérêt général pour expliquer la régularité du monde économique. Le jeu des intérêts privés suffit largement à assurer, sinon le bien de nos sociétés, du moins le confort de nos concitoyens. Mais lorsqu'on sort de cette sphère strictement marchande pour entrer dans la sphère politique, la grille de lecture doit changer. Car ce qu'on attend de la politique, c'est tout à fait autre chose. D'où la nécessité de revenir à cette notion d'intérêt général. Simplement, le problème pour une notion comme celle-là, vous vous en doutez, c'est qu'elle est difficile d'accès. Et au fond, rien ne garantit le moindre accès cognitif ou la moindre capacité de connaître ce qu'est l'intérêt général. Chacun peut proposer une hypothèse quant à la manière de construire l'intérêt général ou d'avoir une appréhension de l'intérêt général, mais évidemment, ces réponses sont soumises à la qualité des procédures de découverte qui y sont attachées et surtout des procédures de validation de la définition de l'intérêt général qui est ainsi proposée. Alors quelles sont les principales réponses? D'abord, une réponse par l'agrégat. Au fond, l'intérêt général, c'est l'agrégation des intérêts particuliers, leur sommation. Que l'homme politique, par exemple, doive prendre en considération l'intérêt général signifie qu'il doit prendre en compte non seulement quelques intérêts particuliers, mais tous les intérêts. Il doit essayer de satisfaire de la manière la plus équilibrée, la plus complète possible, les différents intérêts singuliers. Et d'une certaine façon, cette interprétation prévaut dans la philosophie utilitariste qui ne mérite pas toute l'indignité que notre pays lui réserve, dont il ne faut pas non plus ignorer l'influence sur toute la pensée, une grande partie de la pensée politique contemporaine. C'est une philosophie puissante, sophistiquée, mais qui reste attachée fondamentalement à la prémisse que je viens de rappeler. Ce qu'il faut faire, l'action juste, donc par excellence ce que la morale s'attache à définir, c'est l'action qui maximise l'utilité de chacun. Et dans cette lecture, l'intérêt général n'est rien d'autre qu'une somme, un agrégat. Il n'y a d'une certaine façon pas de sujet politique au-dessus des individus. Il n'y a pas d'incarnation factice, fictive, mais peut-être nécessaire, d'un intérêt général. Il n'y a que des intérêts privés et leur addition. Une seconde réponse consiste à dire qu'au contraire, l'intérêt général n'est pas seulement la somme des parties, qu'il faut entrer dans une autre perspective qui est un élément caractéristique de la politique, c'est-à-dire la dimension du général. Qu'est-ce que cela veut dire? Car chacun est bien conscient du fait que dès qu'on parle de général, on change de registre d'analyse. C'est une conception très puissante et qui dit que la sphère politique n'est pas simplement la sphère de mise en équilibre et de compromis d'intérêts qui existent de toute façon. C'est une lecture qui prétend que la sphère politique crée un nouveau sujet, un nouvel ordre de réalité. Cette intuition est tout à fait sensible dans un texte qui est à l'origine de notre pensée politique moderne, Le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, où il est clairement dit que l'entrée dans l'ordre politique transforme radicalement le sujet comme une nouvelle naissance, une nouvelle reformulation de l'humanité, une nouvelle définition de l'humanité. En abdiquant ses libertés naturelles pour trouver une existence politique, l'homme se transforme radicalement. C'est le sens du magnifique premier paragraphe du chapitre 8 du Contrat social. Et puisque j'ai cité Adam Smith, je voudrais maintenant cité Rousseau, ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable, dit Rousseau, en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement que la voie du devoir succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit, l'homme, qui jusque-là n'avait regardé que lui-même, se voit forcé d'agir sur d'autres principes et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Quoiqu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands. Ses facultés s'exercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'ennoblissent, son âme tout entière s'élève à tel point que si les abus de cette nouvelle condition ne les dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qu'il en arracha pour jamais et qui, d'un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme. L'accès à l'humanité ne se fait que par l'ordre politique. C'est un être de nature auquel se substitue, à un être de nature, se substitue un être politique. J'ai esquissé cette alternative, évidemment, qui est très, tout à fait décisive pour la pensée politique contemporaine, le calcul de l'intérêt général par la sommation des intérêts et une toute autre conception de ce qu'est intérêt général, le mot convient-il encore, en tout cas volonté commune ou volonté générale, pour montrer que notre pensée politique aujourd'hui est prise à l'intérieur de cette branche. Car je n'ai pas le temps ici de rappeler aussi quelques-unes des caractéristiques ou des conséquences de la pensée politique de Rousseau, peut-être quelques-uns de ses dangers également. Cette extrême artificialisation de la création politique où, d'une certaine manière, l'homme retrouve son humanité, retrouve sa véritable humanité entrant dans l'ordre politique, est une sorte de glorification de l'artificialisme en politique et du constructivisme en politique qui méconnaît peut-être la nécessité de retenir quelque chose de la nature, de la tradition, de l'histoire. Bref, de cette sédimentation des existences que cette recréation volontarisme, extrêmement volontariste de l'ordre politique que nous propose Rousseau, n'est peut-être pas en mesure d'intégrer et qui peut-être est un élément aussi absolument essentiel de la politique. Alors, pour explorer cette dernière, ou pour prolonger cette dernière suggestion, je voudrais moi aussi revenir à un auteur plus ancien, qu'a cité Pierre Manon en rappelant que Molière l'avait affreusement critiqué et qu'après cela, il paraissait tout à fait inconvenant de rappeler l'importance de sa pensée politique et comme toutes les idées profondes et vraies, nous n'en avons pas encore fini, en dépit des périodes de désaffection forte que cette pensée traverse, eh bien, elle est attachée au nom d'Aristote. Alors, il ne s'agit pas simplement d'Aristote d'ailleurs, il s'agit de la pensée grecque en général, et plus généralement de cette intuition très profonde qui est à l'origine de la réflexion politique selon laquelle l'existence de l'homme est d'abord une existence politique. Là, nous sommes bien loin de l'agrégation des intérêts. Nous sommes bien loin de l'idée que par une sorte d'artificialisme et de volontarisme extrême, les hommes sont capables de se recréer comme des êtres politiques. Nous sommes dans quelque chose de plus simple d'une certaine façon, mais peut-être d'infiniment plus profond. Au fond, dans une société, les finalités de l'accès à certains biens, et en particulier des biens moraux, qui sont absolument nécessaires pour l'individu, se fait dans l'ordre politique. Alors bien sûr, c'est une pensée qui ne saurait être reprise intégralement dans nos sociétés. Il va de soi qu'on ne peut en observer que le caractère anachronique. Notre société ne connaît plus de grands récits, elle ne connaît plus de foi partagée. D'où pourrions-nous nous permettre de décrire ainsi un ordre collectif du bien qui ne dépendrait pas du libre choix des individus singuliers? Et quelle justification, quelle adhésion pourrait être attachée à cette notion de bien commun? Nous avons, d'une certaine manière, deux modèles en concurrence et une intuition profonde qui, d'une certaine manière, les déstabilise ou les perturbe l'une et l'autre. Il me semble que la nécessité de parler du commun, du collectif, du général en politique est absolument nécessaire. Et d'ailleurs, elle est même redondante. Le politique n'est que cela, n'est que la capacité de penser un être collectif, de penser une communauté. Il est certain que la société, la conjonction des intérêts privés ne suffit pas à créer cet être commun. Il est certain aussi que la recréation artificielle d'une dimension commune qui ne prendrait pas en charge, comme on charrie d'une certaine manière le fond de pierre d'un fleuve, la nature humaine et les éléments profonds de l'anthropologie n'auraient pas non plus beaucoup de sens et d'une certaine manière seraient sans frein lors de dérives ou de passages à l'extrême de la politique, de politisation extrême. Il nous faut donc d'une certaine manière essayer de penser à partir de cette nécessité du général et du commun ce qui pourrait être la prise en compte d'éléments de notre époque qu'il est impossible d'effacer, comme l'exaltation de l'intérêt individuel, qui, d'une certaine façon, a formé aussi la rationalité moderne avec laquelle nous pensons, ça nous ne pouvons pas l'ignorer, de penser aussi cette nécessité du politique et de ce volontarisme politique qui, d'une certaine façon, fait maintenant également, aussi paradoxal que cela paraisse, partie de nos traditions. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de société sans communauté politique. Mais il me semble que la politique peut aussi s'inspirer des idées qui, depuis Hobbes, ont présidé à l'exigence d'une autonomisation du champ social par rapport au champ politique. Qu'il y ait une forme d'autonomie de la société par rapport à la politique, c'est une idée qu'il me paraît difficile de contester. Mais que cette autonomie se prétende une autosuffisance et une capacité de fonctionner sans recours politique et sans encadrement politique me paraît aussi une idée extrêmement dangereuse. D'une certaine façon, puisqu'il a été question de pensée libérale, la pensée libérale est arrivée dans certaines de ses inspirations, peut-être pas dans toutes et certainement pas dans cette exaltation de l'absence de gouvernement et de l'autosuffisance des sociétés, est arrivée à, du moins, percevoir la nécessité de construire à partir de l'arrangement des intérêts, de l'édification des compromis, la construction des normes, de construire également un espace politique et par excellence le gouvernement représentatif, qui est la forme politique profondément attachée à la démocratie libérale. Donc la nécessité de penser le commun est une nécessité qu'il est impossible aujourd'hui d'écarter. Et d'une certaine façon, si toute notre société et ses prétendues ambitions de civilisation tendent à effacer cette nécessité, ce qui s'annonce, ou les menaces qui s'annoncent, ou les difficultés qui s'annoncent pour notre monde, auront au fait de la lui rappeler. Il n'y a pas d'immédiateté en politique. La transcendance est nécessaire. Et là encore, je voudrais vous citer une remarque de Bergson qui insiste sur le fait que la politique n'est ni de l'ordre de l'homogène, ni de l'ordre du familier. Il faut entrer dans une nécessaire altérité pour la construire, celle précisément qui ouvre à un destin commun ou à une épreuve commune. De la société close à la société ouverte, de l'individu à la cité, on ne passera jamais par voie d'élargissement, parce qu'ils ne sont pas de la même essence. Donc aujourd'hui, dans un moment où nous semblons ignorer la nécessité du commun, nous nous trouvons placés dans une situation assez paradoxale, où le commun est ignoré dans notre espace politique et retrouvé comme une évidence dans l'espace mondial. Quel étrange paradoxe. On nous parle de gouvernance mondiale, on nous parle d'intérêt commun, on nous parle de sentiment de l'humanité, reprenant des idées du reste fort anciennes. Et ce qui est une sorte de commun non construit, parce que c'est un commun ressenti, c'est un commun de l'épreuve, c'est un commun de la peur, c'est un commun construit dans une dimension de conscience du risque, évidemment pas construit par et dans la politique. Il est curieux que le thème du commun et du général ait tant de succès à l'échelle du monde et soit considéré avec si peu d'intérêt et d'attention à l'échelle de nos communautés politiques. Après tout, on peut imaginer qu'il y a là un détour intéressant pour rappeler l'importance des notions de commun et de général dans les constructions politiques, mais je redoute dans cette possibilité de ramener sur le devant de la réflexion politique une notion aussi décisive, je redoute aussi un danger qui consisterait à considérer que le commun, le général défini à l'échelle du monde, est par excellence un commun sans politique. Et d'ailleurs, beaucoup d'éléments attachés à ce discours sur la gouvernance du monde, une sorte de démocratie qui abolirait toute notion de la souveraineté et de l'État, confirment cette crainte. Il va de soi que le commun politique est un commun qui est profondément attaché à l'État, à la construction d'une communauté politique. Cela ne l'empêche pas de respecter l'autonomie de la société, cela ne l'empêche pas de respecter la diversité des intérêts privés, dont je rappelais tout à l'heure l'importance, cela ne l'empêche pas de créer en son sein aussi une dimension d'artificialisation, un lieu de transcendance qui est le lieu propre de la politique et de l'exercice de la politique, qui ne se fait pas dans l'immédiateté, mais il reste qu'il n'y a pas de commun et de général sans un horizon politique, et je regrette aussi, comme le précédent orateur, que nos sociétés aient tendance à l'oublier. Je vous remercie.
C'était Monique Cantos-Perber sur la notion d'intérêt général et de bien commun. C'est au tour désormais de François Leveau de prendre la parole. François Leveau est professeur de droit public. Il revient dans son intervention sur l'influence des institutions sur notre société. Sa communication se déroule sous forme de dialogue avec Bérénice Tournafon, co-organisatrice du colloque. Retrouvez aussi à la fin de l'intervention de Philippe Leveau l'épilogue de François Terret de l'Académie des sciences morales et politiques. Mais pour l'heure, retrouvons Bérénice Tournafon et Philippe Leveau.
Nous avons choisi la formule d'un dialogue interactif que je vais tenter de mener avec Philippe Leveau. Alors, la société est bien évidemment un tout. Elle est constituée tant des hommes que des institutions qui la font fonctionner. Plusieurs questions se posent alors à ce sujet. Dans quelle mesure les institutions sont-elles pour partie responsables de nos choix de vie et de nos comportements en société ? Cette problématique est très ancienne, mais ne se pose-t-elle pas dans des termes renouvelés à l'époque contemporaine ?
En préalable, je voudrais faire observer que l'intitulé qui m'a été proposé, l'intitulé du sujet, donc l'influence des institutions, peut évidemment paraître un peu paradoxal, puisque les institutions étant ce qu'il est convenu d'appeler des superstructures, est-ce que ce n'est pas plutôt les comportements et les émotions qui influent sur les institutions plutôt que le contraire ? Bon, il y a certainement une interaction de toute façon, et la deuxième sous-question préalable, ce serait de savoir, il y a sans doute certainement une influence des institutions sur les comportements politiques, mais est-ce qu'il y en a sur les autres ? Et dans certains cas, est-il possible de distinguer un comportement politique d'un comportement non politique ? Je crois que l'exposé de Madame Cantos-Perber a bien montré qu'il y avait là quand même fading mystérieux qu'il est difficile de pénétrer. Donc je reviens à votre question proprement dite. Est-ce que c'est une problématique essentiellement contemporaine ? Non, certainement pas. On verrait chez les auteurs anciens de nombreuses amorces traitées cette thématique, mais je crois que si on veut être raisonnable et bref, il faut, selon le modèle de Benjamin Constant, distinguer les anciens et les modernes, et on se limitera ici à l'apport des modernes, en considérant que par ailleurs, certains modernes sont encore très très imprégnés de l'ancien, ce qui est le cas de Montesquieu, avec ses catégories qui sont quand même assez abstraites, comme l'honneur qui est le principe des monarchies, la vertu qui est celui de la République. Donc je pense que c'est essentiellement avec des penseurs comme les penseurs libéraux du début du XIXe siècle et puis de la moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire pour la France essentiellement, donc Constant et Tocqueville, que nous pouvons voir le premier rapport fondamental. Or, le plus fondamental étant sans doute celui de Tocqueville, puisqu'il renouvelle fortement les termes de la problématique.
Quel est, selon vous, l'apport essentiel de Tocqueville dans ce renouvellement des termes de la problématique en question ?
Tocqueville est le premier à opérer une confrontation directe entre un modèle qu'il connaît bien, qui est celui de l'ancienne Europe. Il le connaît bien parce qu'il l'a étudié, mais aussi parce qu'il en fait partie. Il est enraciné dedans par ses origines aristocratiques. Et un nouveau modèle qui, lui, est radicalement fondé sur le principe démocratique, qui est donc celui des États-Unis d'Amérique, où il ira faire un voyage d'études, donc qui durera très longtemps et dont il ramènera cet ouvrage fondamental qui est la démocratie en Amérique. Donc il va renouveler les termes de la problématique de l'influence des institutions sur le comportement parce que, encore une fois, il opère une espèce de confrontation directe entre des mœurs qui sont encore en Europe, qui resteront encore assez longtemps très imprégnés de la société aristocratique et d'autre part donc un modèle démocratique qui, lui, n'a pas de racines, pratiquement jamais eu de racines aristocratiques. On pourrait dire évidemment Monsieur Jefferson, etc. C'est vrai aussi, mais c'est quand même extrêmement marginal. Il comprend que la démocratie à l'opposé de ce que la Révolution française avait semblé apporter à travers l'œuvre des assemblées, l'Assemblée constituante, etc., que la démocratie va se définir désormais moins par référence à des principes comme ceux de Rousseau qu'en fonction d'une finalité totalement prosaïque, c'est-à-dire le bien-être matériel. Et de ce point de vue-là, on pourrait évoquer un point d'actualité, c'est le contresens, n'est-ce pas, que produisent les médias occidentaux à propos des révolutions arabes. Les révolutions arabes emploient sans doute une phraséologie démocratique, mais la finalité de ces révolutions, ce n'est pas la démocratie, c'est le bien-être matériel.
Comment se traduit l'opposition entre les institutions d'Ancien Régime et la démocratie contemporaine en fait d'influence sur les comportements ?
Évidemment, envisager l'Ancien Régime de façon générale et abstraite est toujours un peu dangereux. Il y a plusieurs Anciens Régimes. L'Ancien Régime vécu dans les États du Pape ou bien dans les cantons suisses aristocratiques n'est pas le même que celui qui était vécu dans la monarchie française centralisée du XVIIe et XVIIIe siècle. Enfin, si on se limite à ce dernier cadre, donc au cadre français, on pourrait dire que c'est un système dans lequel la souveraineté est limitée, elle est limitée par la loi au sens classique du terme, et cette loi qui revêt trois figures, celle de la loi divine, le roi n'étant responsable que devant Dieu, et s'impose à lui en tant que dispensateur de la justice, hein, c'est Saint Louis sous son chêne, et puis il y a la loi naturelle par laquelle le roi doit respecter les droits civils de ses sujets, et puis ensuite il y a la constitution coutumière du royaume, ce qu'on appelle les lois fondamentales. Dans ce contexte, il y a incontestablement une grande liberté qui est laissée au comportement individuel, c'est-à-dire que il y a bien entendu un principe de hiérarchie qui est très fort, mais l'obéissance qui est due au prince dans ce type de système, et ça, Tocqueville y insistera aussi, l'obéissance y est d'une certaine qualité. Et il dit quelque part, dans l'Ancien Régime et la Révolution, quel qu'ait été ce degré d'obéissance à l'égard du roi dans la société d'Ancien Régime, ces sujets n'ont jamais connu cette forme d'obéissance servile que nous avons aujourd'hui. Il parle sous le Second Empire, bien entendu, il y a une connotation directement politique, assertion, forme d'obéissance servile qui fait que l'on méprise souvent le prince, mais on le craint et on le sert parce que il peut lui-même servir et qu'il peut procurer, encore une fois, des avantages, essentiellement des avantages matériels. Et c'est quelque chose qui me paraît rester très actuel dans le contexte des institutions françaises d'aujourd'hui, telles qu'elles ont tourné, en tout cas depuis un certain temps.
Quelle serait la différence qui subsiste entre la démocratie américaine, qui est restée globalement dans la ligne décrite de celle décrite par Tocqueville, et la démocratie européenne, les démocraties européennes ?
Je pense que c'est essentiellement un enracinement dans la transcendance qui reste très vivace dans la démocratie américaine. Il y a évidemment cet héritage des congréganistes, hein, de ces sectes réformées qui ont été à la base de la révolution de 1776 et qui ont donné une imprégnation religieuse au système américain, à la constitution américaine, vous connaissez la devise évidemment, In God We Trust, alors que du côté européen, à l'occasion d'une évolution nettement plus récente, mais qui commence maintenant à durer depuis quelques décennies, on a l'air de traquer de façon presque sauvage tous les vestiges de ce qui peut ressembler à des éléments transcendants dans la vie publique.
Alors, quels sont les aspects coercitifs de l'action des institutions quand elles visent à orienter les comportements ?
Alors là, c'est évidemment un très vaste problème. Ce serait impossible à traiter de façon globale. Mais si on envisage les choses depuis leur origine, il faut encore revenir à nos auteurs classiques. Je pense par exemple à cet ouvrage de Benjamin Constant qui n'est pas finalement très très lu, je crois, qui est le commentaire sur l'ouvrage de Filangeri, qui est donc la science de la législation, paru en 1780 Et Constant lui publie son essai en 1823 ou 24, donc il y a quand même un certain décalage. Et Filangeri écrit, lui, Filangeri donc qui est le radical total, on connaît pas beaucoup l'auteur, mais on connaît bien la formule, la seule tâche de l'État, c'est de laisser faire et de laisser passer. De l'État, il ne dit pas de l'État, il dit du gouvernement, bien sûr, on ne dit pas de l'État en 1780. Mais enfin, Filangeri écrit en une période où sévit le despotisme éclairé, qui est une forme pathologique de la monarchie traditionnelle, et qui prétend effectivement faire le bien des sujets, plutôt que simplement en assurer les conditions objectives. Cette réflexion de Constant le conduit donc à examiner comment l'action de l'État peut finalement effectivement se révéler nocive quand l'État prétend influer, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, sur les comportements individuels. Et il évoque notamment Malthus, pour lequel il aurait fallu que le législateur intervienne pour empêcher les gens de se marier, de manière à éviter une reproduction de type prolétaire, donc prolès ça veut bien dire des enfants, donc la seule richesse des prolétaires ce sont leurs enfants, et on voulait même leur enlever celle-là si vous voulez. Et c'est cette première réflexion sur le caractère coercitif des institutions qui peut avoir des conséquences sur les comportements individuels. Ensuite, bien entendu, les choses changeront totalement de nature avec les régimes totalitaires, puisque ceux-ci disposeront d'une idéologie, de moyens auxquels pourront s'ajouter les techniques déjà bien éprouvées des tyrannies classiques qui avaient été employées depuis si longtemps.
Est-ce que vous voulez ajouter un mot de conclusion ?
Oui, je pensais à la question de la productivité, de la rentabilité spirituelle de nos institutions. Je lisais l'autre jour une interview d'Umberto Eco, et il faisait allusion à cette scène de la fin de ce célèbre film qui est Le Troisième Homme, où Orson Welles est au pied de la grande roue du Prater, et il dit, au fond, regardez Rome à l'époque des papes Borgia, il y avait quelques empoisonnements, quelques petits massacres, quelques bagarres, mais enfin, c'était Michel-Ange, c'était le Bernin, c'était tous ces immenses artistes, et regardez par contraste la Suisse, qui a connu 500 ans de démocratie pacifique et heureuse, tout ce qu'elle a réussi à inventer, c'est le coucou, et Umberto Eco termine en ajoutant, c'est d'ailleurs pas vrai, ce sont les Allemands qui ont inventé le coucou.
Je voudrais épiloguer un peu un instant sur la relation entre ce qui nous a été dit, et c'est bien dit, et les réactions du comportement de l'homme contemporain. Et cela à travers aussi bien les problèmes posés par la représentation, par l'intérêt général et par les institutions. D'abord, par rapport à la représentation, il est classique de soutenir que l'on peut considérer que la volonté générale, par le biais de la représentation, correspond à l'esprit même et au bienfait de la démocratie. Cela dit, quand on enseigne aux étudiants que les sources du droit, c'est la loi, et puis c'est la jurisprudence, et puis c'est le cas échéant la coutume, quand on sait plus quoi dire, formule de juriste en difficulté, il faut bien voir que, à partir de cela, le comportement de l'homme contemporain se rattache plutôt à trois idées dans l'attitude face au pouvoir législatif. La première, c'est la colère des victimes. La colère des victimes en elle-même est une des manifestations actuelles du comportement de l'homme contemporain. Il y a plus de colère des victimes, plus ou moins du médiateur. Est-ce que on se trouve en représentation démocratique quand on parle des incidents ou des incidences du médiateur? La seconde manifestation, on pourrait pas dire ça aux étudiants, n'est-ce pas? Première source du droit, la colère des victimes. Deuxième source, les clameurs de la rue. Les clameurs de la rue ne sont pas sans influence sur le développement de ce qui est la représentation. Et puis la troisième formule, c'est quand même les propos des journalistes. J'admire beaucoup les médias, je ne veux pas me mettre mal avec les médias, mais il fut un temps où j'utilisais des passages des quotidiens nationaux pour mes séances de travaux pratiques à la faculté, pour demander aux étudiants de trouver les erreurs. Et les erreurs étaient importantes et fréquentes à l'époque. Le malheur, c'est que les étudiants qui faisaient cet exercice le lundi passaient toutes les indications à ceux du mardi, et que par conséquent, toute ma semaine s'en trouvait en quelque sorte perturbée. Et alors, de ces trois idées, quoi, les clameurs de la rue, la colère des victimes, et puis quand même les discours des journalistes, témoignent d'une vision qui est peut-être un peu celle de la force des lois ou la force du droit, née de la représentation comme un mythe après d'autres. Un mythe après d'autres, mais un bon mythe, peut-être, je ne dis pas, mais c'était autrefois la puissance des dieux, puis ce fut les astuces des ancêtres, dénoncées par Voltaire, puis ensuite ben, le mythe de la volonté générale. De cette volonté générale qui, pour certains articles importants, votés par le Parlement, ne le sont qu'en séance de nuit, à 4h du matin, devant 3 parlementaires, et avantagés et soutenus par les huissiers des assemblées parlementaires, car leur rémunération augmente au fur et à mesure que la nuit augmente. À 4 heures du matin, c'est mieux payé. Et on comprend la joie des huissiers du Parlement lorsqu'il s'agit des votes de lois de finances qui occupent jour et nuit ceux qui font vraiment les lois. Bon, première observation sur ce mythe, mais il faut des mythes. Et il ne faut pas ici développer l'antimythe. D'autre part, il faut reconnaître que l'intérêt général et l'intérêt particulier devient de plus en plus difficile à apprécier, car la distinction des deux devient d'autant plus délicate que la vie privée pratiquement n'existe plus, et l'on le voit en matière médicale, et parce que peut-être l'idée même de secret est contre nature par elle-même. Et puis, il y a aussi les institutions. Mais les institutions, il faut bien voir qu'elles sont perçues souvent d'une manière d'abord préélectorale. Il y a des promesses. Et on croit ces promesses, elles sont faites pour être crues, disait un ancien président de la République. D'autre part, l'on affirme dans la presse, la loi modifiant telle ou telle chose, la loi de finances en ce moment, est adoptée par le Conseil des ministres. Et beaucoup de Français croient qu'à partir de ce moment-là, c'est une loi en vigueur et se dépêchent de réagir à l'avance. D'ailleurs, en ce moment, en matière fiscale, avis aux amateurs, il faut se dépêcher, car les donations ne seront plus. Mais en anticipant sur une réforme, on la crée elle-même. Et véritablement, en matière sociale, politique et juridique, il y a des théorèmes américains et qui sont tout à fait convaincants, quand les hommes croient à des situations très réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences. Quand on croit qu'une banque va faire faillite, on se dépêche d'aller prendre son argent à la banque, et elle fait faillite. Donc c'est pas comme de prévoir une éclipse de la Lune, ou quelque chose d'approchant. Alors c'est pourquoi, sur le troisième point que j'évoquais, qui était celui qui était évoqué il y a un instant et traité de très bonne manière, d'ailleurs bien sûr, au fond on revient toujours à une question qu'avait posée, mais là c'est véritablement aussi au cœur peut-être de notre sujet, de nos préoccupations, c'est une formule qu'un auteur trop vite disparu avait développée, une étude très remarquable, et qui avait été développé par un professeur de droit, c'est pas impossible, professeur abritier qui s'appelait Decensière Ferrandière, et qui a, sur le point en question, développé toute une série de réflexions sur la question suivante. Est-ce qu'il faut de bons gouvernants, ou est-ce qu'il faut soumettre les gouvernants à de bonnes règles de conduite?
C'était le juriste François Terré, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il apportait ses réflexions suite à l'intervention de Philippe Loveau sur l'influence des institutions sur notre société contemporaine. Il était accompagné dans ce dialogue par Bérénice Tournafon. Et puis vous avez pu entendre également au cours de cette retransmission les propos de Monique Cantos-Perber. Restez en notre compagnie et téléchargez sans plus tarder les 3 autres volets du colloque « Regard sur l'homme contemporain » consacré à la politique et aux médias. Retrouvez notamment les interventions du philosophe Pierre Manant et la place de la politique dans la vie humaine, François Daubert, ancien ministre, sur l'éthique dans la finance, et Alain Berthoz et Philippe Kourilski, tous deux membres de l'Académie des sciences, sur l'apport des neurosciences sociales et de la nécessité de l'altruisme. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.